Quel des systèmes?
Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai fait la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, peinture rouge et l'urée d'un gars, sans oublier de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, s'il est rainette, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le temps, cela peut arriver au prophète, monsieur le président, madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous veut la preuve. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Sergi des gamins? Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. La rage. La rage.
Chers auditeurs de Podcartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Quelques annonces avant de commencer l'émission. Depuis quelques minutes, sur la place de la République, il y a un rassemblement en soutien à Julian Assange pour éviter son extradition vers les États-Unis. Donc nous nous associons à ce rassemblement. Nous avons fait une émission sur Julian Assange qui n'est pas disponible parce que notre serveur est en panne, mais il est en voie de réparation et très bientôt vous pourrez l'écouter ou la réécouter sur le site du groupe Louise Michel. Samuel, bonjour.
Bonjour. On va continuer les annonces avant de démarrer l'émission. Le génocide est toujours en cours en Palestine, ça ne change pas, mais il faut continuer à en parler, parce que la normalisation c'est peut-être une des pires choses qui peut arriver dans ce genre de cas. Donc voilà, c'est pour ça que je pensais que c'était important quand même d'en parler en début d'émission, de dire que c'est quelque chose qui continue et dont il ne faut pas arrêter de parler. On est nombreux pour l'émission d'aujourd'hui. Alors on a bien sûr l'éternel François.
Ah, bonjour. Mais là, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. D'ailleurs, je ne me rappelle plus comment je m'appelle.
Moi non plus.
Bon,
ok. Marima.
Ça me rassure.
Bonjour, Samuel.
Et nous devions recevoir Zahir pour, à la base, une émission sur la prison, qui est donc reportée, puisque Zahir n'est pas disponible, en fait, finalement, pour le moment. Donc, on va improviser autre chose. Puisque j'ai décidé qu'on allait quand même parler de pouvoir. Parler de prison, c'est parler de pouvoir, mais dans un autre angle, c'est-à-dire celui du rapport entre pouvoir et sciences sociales. Et pour ça, je reçois deux personnes. Donc, d'abord Emmanuel qui est en préparation de son doctorat, n'est-ce pas ?
Et ouais.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Et Quentin qui est lui docteur en sociologie, récemment devenu docteur en sociologie, qui a soutenu sa thèse avec brio. C'était quand déjà ?
Le 30 janvier.
Le 30 janvier, voilà.
Brio, c'était son,
ouais, c'est son
maître de stage.
Recherche, ouais.
D'accord.
Okay. Excellent. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on définisse un petit peu plus clairement peut-être de quoi on va parler. Sciences sociales, c'est un terme assez large qui regroupe un certain nombre de disciplines et dont on peut assez vite perdre le fil si on ne cadre pas notre propos dès le départ. On va dire qu'historiquement, elles n'ont pas les mêmes chronologies. Il y en a des plus récentes que d'autres, il y en a des plus anciennes. Parmi les plus anciennes, on va dire celles qui ont le plus d'intrication avec le pouvoir, on peut au moins citer l'histoire et la philosophie. L'histoire et la philosophie étant quand même deux cursus qui sont historiquement liés aux hommes de pouvoir et pas seulement dans la mesure où un certain nombre de ministres ou d'hommes d'État, que ce soit dans l'ancien régime ou même à post-révolution, ont suivi des cursus d'études, notamment à la Sorbonne en histoire ou en philosophie, mais aussi parce que ce sont des sciences qui ont eu un intérêt, une utilité pour le pouvoir. Donc là, on peut notamment penser aux premières enquêtes dirigées par Villermé, donc qui était un médecin que l'État avait chargé de produire des rapports sur l'état des classes ouvrières au début du 19e siècle, notamment parce qu'ils avaient peur que des révoltes ouvrières éclatent suite aux révolutions, d'abord celle de 89, mais aussi celle de 1815, qui inquiétait beaucoup le pouvoir. Et on a aussi la philosophie, dont Emmanuel pourra peut-être plus nous parler.
Bah oui, clairement, enfin, ce que tu racontes là sur Villermé, c'est très lié à l'histoire, non pas cette fois du 19e siècle, mais du 18e. Où, et ça c'est décrit très bien par Robert Castel, hein, le 18e, se rend compte que les masses laborieuses sont entre guillemets les sources de la richesse. Et donc il va falloir les cadrer et qu'il va falloir leur appliquer des techniques de pouvoir qui ne vont plus être confinées à l'échelle locale, à l'échelle du village, à l'échelle de la communauté, puisqu'avec l'essor du commerce, en fait, les masses laborieuses, telles qu'il le décrit, deviennent une ressource humaine, en fait, comme on aurait tendance à le dire aujourd'hui. Donc ça s'inscrit aussi dans une histoire du siècle des Lumières qui est, bah, pour le coup, plus philosophique, puisqu'à cette époque, les sciences sociales ne se sont pas encore autant autonomisées qu'au 19e.
La science et la philosophie, au départ. La philosophie a une vocation scientifique. Si vous prenez le cas de Hegel, il a une prétention scientifique dans sa lecture du monde. Kant aussi.
Ouais, on pensera à Kant qui parle... enfin de son bouquin, la Prolégolème à toute métaphysique future qui voudrait se penser comme une science. On voit bien que l'objectif de Kant, c'est de scientificiser cette philosophie perçue comme trop métaphysique, car trop floue, et qui serait perdue encore dans les méandres de la raison intéressée, quoi.
Et dans cette perspective de science, en fait, se pose la question de comment, quelle technique l'État va-t-il, parce qu'on parle de pouvoir, mais on va dire qu'un des acteurs, si ce n'est peut-être l'acteur le plus central dans les techniques de pouvoir, c'est l'État. Et la question qui se pose en fait pour le début des humanités, c'est comment vont-elles développer des techniques dites scientifiques pour produire une connaissance? Et dans quel objectif on va produire cette connaissance et qui va produire cette connaissance? Et c'est dans ce cadre-là, on va dire, qu'elles se définissent en tant que science. C'est là qu'elles sortent d'un savoir commun pour se donner vraiment une vocation méthodologique importante.
En fait, peut-être que ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est dans leur rapport au pouvoir, ou en tout cas aux problématiques du pouvoir politique, notamment de l'État, donc, qu'elles vont se constituer en tant que science. Et c'est dans leur intérêt, le caractère instrumental de ces savoirs, qu'elles vont se constituer en tant que science et petit à petit s'autonomiser.
Et la sociologie, qui est une science un peu plus tardive, pour le coup, puisque là, on a pris de bon les exemples de Kant et Hegel, donc c'est plutôt 18e. Mais,
19e, tu veux dire?
Alors, Hegel, il est à cheval sur les siècles, on va dire, mais...
Et Kant, vraiment le 18e.
Mais Kant, c'est plutôt le 18e. Mais oui, Hegel est à cheval sur... à cheval sur les deux siècles, effectivement.
D'accord.
Mais Kant, ouais, Kant, c'est le 18e. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que même au-delà de... Enfin, au-delà des philosophes dont on a parlé, dans les réflexions qui se font au sein de l'État, même si ça n'a pas encore une forme de pratique scientifique comme sera celle des historiens que l'école méthodique, d'abord pour ce qu'est le cas de la France, va développer à la fin du 19e siècle, il y a quand même l'idée que on a dans notre histoire une réalité historique qui doit être la source de la justification de la pratique de pouvoir. Et ça, c'est pas quelque chose... peut-être que dans nos sociétés, ça nous paraît naturel ou ça nous paraît être quelque chose d'universel, ou etc. Mais la manière dont ça se constitue dans les États modernes occidentaux au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'est une manière très spécifique. Et c'est quelque chose dont, par exemple, Foucault, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais vu que ça me vient dans la thématique, je vais en parler là. Dans un de ses cours au Collège de France, qui est celui de 76, si je ne m'abuse, 75 peut-être, il faut défendre la société, il s'appelle, je crois que c'est 75, Foucault parle justement de comment est-ce que dans toutes les pratiques de pouvoir, par exemple les pratiques juridiques, ou par exemple pour tout ce qui va être en question d'héritage, les questions de filiation, les questions de famille, etc. Ou les questions de pouvoir entre différents groupes de population qui sont à l'intérieur d'une même entité politique. On va faire l'appel à l'histoire. On va rappeler que, historiquement, le pouvoir a su se développer, par exemple, pour ce qui est de la noblesse. La noblesse, au XVIIIe siècle, elle est dans un état de contestation par la bourgeoisie, qui a une classe encore un peu en devenir, mais dans cette contestation, la noblesse mobilise l'histoire pour dire, historiquement, la couronne, elle s'est constituée avant tout parce que la noblesse d'épée faisait le gendarme, l'armée, le job. Donc, là, c'est la pratique, on va dire, de l'histoire, mais qui n'est pas encore scientificisée. Et justement, au XIXe siècle, cette pratique, elle est toujours là, mais elle va obtenir sa scientificité, mm-hmm, avec l'école méthodique. Et il va y avoir la formation du roman national, en fait, finalement, de ce qu'on appelle aujourd'hui le roman national.
Alors, cite un historien qui est...
Michelet. Voilà. Voilà, ça va être... si on doit en citer qu'un seul, ce sera Jules Michelet. Mm-hmm. Michelet, il est important sur plusieurs aspects. C'est-à-dire que, d'une part, c'est lui qui a, on va dire, mis de l'ordre dans les archives en France. C'est lui qui a constitué, qui a donné la structure, le squelette aux archives de France. Il a voué sa vie à ça. Et c'est aussi quelqu'un qui va donc produire des connaissances. Mais donc lui aura une prétention scientifique dans la mesure où, dans son travail d'archives, il travaille sur des sources et il est capable de dire, voilà, moi, mon propos sera vérifiable empiriquement sur un corpus de sources. Et Les historiens veulent notamment se départir du surnaturel. Si on s'intéresse aux acteurs qui produisent l'histoire ou qui produisent le discours historique dans l'Ancien Régime, il y a évidemment l'Église.
Et la religion.
La religion plus largement, mais voilà. C'est surtout les clercs qui sont lettrés, qui sont à même de produire des récits. Et des récits pour justifier évidemment le pouvoir de l'Église contre lequel l'État finalement se bat, hein, surtout pour la France. Les historiens vont avoir une prétention à dire « Nous sommes plus légitimes, notre discours est plus légitime que celui de l'Église, pour tout un tas de raisons. L'une de ces raisons étant, nous avons une méthode scientifique, et l'autre raison étant, nous débarrassons des surnaturalismes. Voilà, y a plus de miracles, il y a plus de résurrection, de couper la mer en deux, enfin de tout ce qui parsème les récits bibliques, par exemple, pour le cas de la France. Hein. Ça va disparaître au profit d'un récit à vocation scientifique.
Objectivé, en fait. Enfin, il va y avoir une objectivation et un abandon de toutes les doctrines qui vont venir justifier sur une fin divine, sur une finalité divine. Divine, en fait, c'est une sortie du téléologisme quasiment de l'Église catholique qui
est remplacée, en fait.
Qui est remplacée et qui de toute façon, en dernier recours, quand toute forme d'argumentation n'était plus possible, reposait toujours ce fait de la providence comme explication finale et qui était capable de terminer les débats, même si plusieurs crises au sein de la modernité avaient déjà commencé à casser cette rhétorique-là.
Oui, c'est une rhétorique en fait qui est, on va dire, disputée tout au long du XVIIe, du XVIIIe siècle.
Oui, et même avant en fait, c'est déjà une rhétorique qui est bréchée à partir de la découverte et la colonisation des Européens de l'Amérique du Sud, puisque les écrits saints, les écrits bibliques n'expliquent pas pourquoi les Amériques sont peuplées.
Oui.
Puisque dans la Bible, c'est très simple. Je crois que c'est les enfants d'Abel qui sont partis sur chaque continent, un en Afrique, un en Asie, un en Europe, et qui ont donné l'origine de toutes les populations humaines. On se retrouve donc face à
un mystère
que l'Église n'est plus capable de résoudre. Et donc, déjà, l'essor du rationalisme cartésien, etc., s'inscrit un petit peu dans ces failles ouvertes par l'histoire.
Il émerge surtout aussi de pratiques, en fait, de pratiques de pouvoir et de pratiques coloniales, notamment, puisqu'il y a une nécessité de justifier ce geste colonial. Là, on peut repenser à des écrits comme ceux de Walter Mignolo ou de Raphaël Grossfogel, pour citer quelques noms des coloniaux, mais qui expliquent bien, en fait, comment le sujet de la connaissance, le sujet sachant, le sujet qui produit un savoir scientifique et un savoir qui est non seulement universel, mais qui en plus possède une validité supérieure aux autres, c'est le sujet européen et c'est le sujet occidental. Et c'est parce que il y a cette idée d'exceptionnalisme européen. Il y a l'idée que l'Europe est un lieu d'exception par rapport au reste de la planète, parce que c'est là où, par l'émancipation du religieux, on a réussi à avancer vers la raison universelle qui est l'aboutissement
de la raison kantienne, en fait.
Voilà.
Et si je peux justement me permettre une digression sur ce 18e siècle, en fait, c'est assez intéressant quand on s'intéresse aux théories morales du 18e de comprendre qu'en fait, elles vont, tout au long du siècle, de plus en plus incorporer la question de la raison, du rationalisme et d'un point de vue moral surplombant. Là où, encore au XVIIe, on pense encore le sentiment moral, on pense la moralité dans le cadre de la communauté, dans le sens où ce qui me fait agir moralement, c'est la sympathie que j'éprouve auprès des gens qui sont proches de moi, je suis bienveillant envers eux, etc. Qui était une idée d'ailleurs qui n'était pas encore dissociée selon le genre. Les hommes étaient tout à fait montrés comme capables de sentiments moraux. Mais avec le 18e, et probablement dans son aboutissement qui sera les doctrines kantiennes, on va postuler que la raison est universellement partout la même. Et donc, ça va ouvrir un potentiel émancipateur, qu'on va voir qui va se refermer très vite, hein, mais avec des questions, notamment l'émergence du mouvement anti-esclavagiste. Beaucoup d'historiens se posent la question, pourquoi il n'émerge qu'à la fin du XVIIIe siècle? Eh bien, parce qu'avec cette nouvelle doctrine morale qui postule la raison universelle, bah, il n'y a pas de raison de penser que les esclaves penseraient moins bien que nous, que les autres races penseraient moins bien que nous. Pareil pour les femmes. Et il y a d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des premiers mouvements féministes qui se structurent à la fin du XVIIIe siècle et qui disent, bah, sur toutes ces hiérarchies critiques, enfin, sur cette critique des hiérarchies fondées sur la naissance de la bourgeoisie sur la noblesse, bah, pourquoi nous, on ne pourrait pas aussi critiquer les hiérarchies fondées sur la naissance? Mais le 19e siècle, même si on retrouve déjà à la fin du 18e siècle déjà des arguments qui vont refermer ce potentiel émancipateur, ça va être refermé, je pense, par la scientifisation, par exemple, de l'anthropologie. Et là, on pensera par exemple à Gobineau et son essai de l'inégalité parmi les races, où il va produire tout un argumentaire scientifique, objectif et méthodique, à base de mesures de crâne, hein, de phrénologie, etc., pour dire que non, au final, ces autres-là, que l'on pourrait peut-être inclure dans cette idée d'humanité, ben en fait, ils sont peut-être un peu moins humains que nous. Et d'ailleurs, on retrouve déjà cette tension chez Kant au XVIIIe siècle entre ce statut de majorité morale et ce statut d'être sous tutelle qui serait forcément mineur et qui n'est pas capable de penser à partir de la raison pure. Et c'est vraiment le XIXe qui va scientificiser cette idée, qui va l'autonomiser dans des disciplines scientifiques qui vont être autonomes, qui vont faire leurs propres lois, en fait, internes, et qui vont paradoxalement aussi revenir servir le pouvoir colonial, le patriarcat en tant qu'organisation des rapports entre les genres, etc.
Mais tu parlais de sentimentalité et de cette idée que c'était même quelque chose que pouvaient prouver les hommes, etc. Enfin, ou avoir des sentiments de sympathie à l'égard de son prochain, etc. Mais finalement, en fait, dans la philosophie des Lumières, il y a aussi un peu cette construction en opposition entre la rationalité froide et la sentimentalité qui est vue comme une faiblesse aussi.
Oui, c'est ça. Enfin, chez Kant, hein, c'est très simple. Hein. La moralité n'est pas du tout basée sur le sentiment, sur la proximité que peut ou même sur cette notion plus contemporaine d'empathie qu'on retrouve chez Adam Smith, par exemple, mais tout simplement par le fait que c'est des lois qu'on va se donner par la raison seule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout besoin de s'intéresser aux particuliers. La moralité se définit à partir de l'universel comme une universalité.
Et bon, dans cette opposition.
Alors excuse-moi.
Oui, vas-y, François.
Les romantiques, alors, ils étaient mal vus, alors.
Bah, romantiques.
Ils étaient complètement out.
Bah, les romantiques répondent à Kant en disant que non, justement. Enfin, y a une logique du particulier. Ils vont réarticuler cette question du sentimentalisme moral dans une perspective plutôt politique par la suite. Je suis loin d'être spécialiste du romantisme, hein, mais je trouve que cette dialectique entre romantisme qui peut parfois tourner à la réaction et ce progressisme kantien qui peut au final complètement tourner au final à une. Enfin, qui peut mener à des dérives complètement technocratiques et une conception complètement autoritaire du pouvoir, est quelque chose qui va animer toute la seconde partie de la modernité, en fait, du 18e à nos jours.
Et qui fonde le fameux mouvement, l'opposition entre les anciens et les modernes, qu'on a encore à l'heure actuelle.
Oui.
Non, mais ça, c'est toute. Chaque génération est persuadée de.
Alors,
d'avoir raison sur la génération de papa-maman. Je crois pas que c'est de tous les siècles, ça.
C'est de tous les siècles, heureusement. Alors là, il y a une bonne réaction, c'est qu'on a eu un mouvement de masse chez les poètes qui se sont coalisés et qui ont refusé que la tête de liste de la poésie du Printemps des Poètes soit Tesson.
Ça, c'est pas au 19e siècle.
Ça, c'est maintenant.
Ah, oui, ça, c'est maintenant et tout de suite.
Ton balai, là.
Ah, oui, oui. Bon. Donc, c'est pour donner un exemple que ça continue jusqu'à présent.
Non, mais non seulement ça continue, mais en plus, si on prend l'exemple de la critique de la valeur, mais en fait, je pense que dans un certain nombre de mouvements théoriques marxologiques, il y a quand même vraiment cette théorisation sur l'idée que le rationnel est renvoyé au féminin. C'est toute la thèse de Rosita Schultz. Oui, le rationnel, pardon, est renvoyé au masculin et le sentiment est renvoyé au féminin. Et du coup, on a une espèce de pôle positif qui serait le masculin rationnel et de pôle négatif qui serait le féminin irrationnel parce que dans le sentiment, dans l'émotion, etc.
Il y a de l'hystérie.
Voilà, par exemple. Et puis, ça se retrouve aussi, en fait, finalement, dans le process de racialisation, où on va dire, il y a la civilisation rationnelle européenne occidentale blanche, et il y a tout ce qui est situé en dehors de l'Occident, qui est en fait irrationnel, et qui n'a pas été capable de mener ce mouvement vers la raison universelle athée, ou en tout cas agnostique, qui a été capable de mener en fait l'Occident. Mais bon, là, c'est vraiment pour... cadrer d'un point de vue plutôt philosophique
le débat.
Le débat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à le dissocier un peu parce que en fait on a dans l'université on a d'un côté les sciences sociales et de l'autre côté la philosophie, mais ça fait perdre de vue que la philosophie a une vraie prétention scientifique au départ.
Oui, surtout que mon point vraiment initial c'est de dire que les questions philosophiques du 18e vont être réincorporées au 19e et peut-être encore plus au 20e dans des disciplines des sciences sociales contemporaines, la sociologie, l'anthropologie, la géographie, etc.
La géopolitique,
toutes ces questions qui apparaîtra, elle, encore plus tard. Hein. Mmh. Mais que toutes ces questions philosophiques vont se retrouver ensuite inscrites dans des disciplines scientifiques et vont, dans une large partie des cas au 19e siècle, être un instrument du pouvoir politique pour refermer les potentiels émancipateurs qui avaient été ouverts par les questions des Lumières. Et donc, au final... Et aussi en s'appuyant sur ce qu'il y avait déjà de conservateurs et de réactionnaires au sein des Lumières dites progressistes, notamment chez Kant. Mais c'est vraiment pour montrer que ce mouvement d'autonomisation des sciences sociales, en fait, se conçoit comme déjà un pouvoir. Mais cette fois, un pouvoir qui n'est qu'instrumental. Mmh. Les sciences ne se pensent pas encore comme un pouvoir autonome. Ça, c'est plutôt ce à quoi on commence à arriver tranquillement.
Oui, c'est plus tardif, effectivement, mais si je pense pour revenir aux historiens, et plutôt donc quitter le 18e pour aller un petit peu vers le 19e siècle. Alors, on a évidemment, on peut pas avoir un rapport unifié, entre guillemets, ou monolithique à l'histoire. Évidemment, il y a des perspectives historiques qui sont très différentes les unes des autres. Si vous prenez la perspective de Michelet ou celle de Marx sur l'histoire, c'est évidemment pas les mêmes lectures.
Ouf.
En elle-même, mais on dit ouf, mais en fait ce qui est intéressant à voir, par-delà les différences qui peuvent exister dans le champ du discours historique, ce qui est intéressant de voir c'est les points communs. Qu'est-ce qui peut justement avoir pour point commun Karl Marx et Jules Michelet? Et en fait quand on s'intéresse aux points communs qu'on peut trouver chez Marx et Michelet, on retombe en fait sur une lecture téléologique de l'histoire, et on retombe sur l'idée que l'histoire c'est un espèce de temps abstrait avec un point de départ, un point d'arrivée. Oui, François, vas-y.
Et pour les auditeurs qui n'ont pas tous votre immense culture, chers amis, il faut expliquer que téléologique, ça veut dire un truc qui est une espèce de déterminisme.
Oui, téléologie, c'est quand on produit une analyse du passé en partant du postulat qu'elle ne pouvait de toute façon que mener à la situation historique depuis laquelle on analyse le passé, en fait. Donc c'est une vision qui... En fait, c'est une vision qui est problématique principalement pourquoi ? Parce qu'elle ferme, en fait, la réalité des possibles, elle ferme la réalité historique qui n'est pas, en fait, déterminée, qui, au contraire, peut...
Elle est contingente.
Oui, mais c'est pas juste qu'elle est contingente, disons, c'est qu'elle peut vraiment passer d'un tout à un autre tout sur des événements dont on n'a pas la maîtrise...
Marx n'échappe pas à la règle. Hein.
Non, Marx n'échappe pas.
Il est téléologique.
Oui,
à fond.
Oui. Ouais. Ben Marx fait quelque chose d'encore plus loin, parce que il prétend renverser Hegel, mais au final, il se retrouve à être plus hegelien encore que Hegel, parce que Marx voit dans le communisme la phase finale de l'histoire, quoi. C'est que lui, il fait une téléologie d'un truc qui n'est pas encore arrivé. Donc c'est encore plus fort, hein, finalement. Parce que Hegel, bon, lui, il fait une téléologie d'un truc qui est arrivé, c'est l'État prussien. Et Napoléon, quoi. Hegel, il voit Napoléon.
Ça s'appelle prédire le passé, ça.
Ouais. Hein? Bah, c'est un peu ça. Mais Marx, lui, il va prédire l'avenir, quoi. C'est encore plus fort. Mais.
Bon. Il nous reste quelques minutes avant la pause musicale. Quelle est votre conclusion de cette première partie?
Je pense que ce qu'on voulait en tout cas montrer, c'est que comment la philosophie en tant que science s'est constituée. Et ce qu'on va essayer de réussir à montrer dans les autres parties, c'est comment est-ce que, bien que les sciences sociales se soient emparées de la question du pouvoir et se soient rendues compte de leur propre rôle dans les dynamiques de pouvoir, il y a des persistances de la manière dont elles se sont structurées dans le siècle des Lumières ou en Occident de manière générale.
C'est ça.
D'accord. Bien, eh bien, on va faire une pause. Jean-Mi, s'il te plaît.
Oh. au parfum par une fraîche dépêche de l'AFP, du kidnapping des trois Français les mieux draftés. 60 millions de cœurs pour un rocker, un rasta tennisman et puis un beurre footballeur. La nouvelle est tombée comme une averse en été, journée de deuil national décrétée pour un trio black blanc beurre entré dans les mœurs. Tragédie titrée l'agence Reuters. Disparition de Johnny Yannick et Zizou, accusé dans la nuit du 5 au 6 août, alarmé par les bruits de l'US Army. Dès le matin, emmené Manu Militari en position de stress dans une soute, une cagoule cousue sur leur tête, leur coupe le souffle. Des colliers Colson leur serrent, chevilles et poignets, tellement fort qu'ils le ressentent dans leurs moelles épinières. Attachés à l'appareil par une sangle, du ruban adhésif, Chatterton les étrangle. Un casque anti sur les coupes du monde, aucun tissu sur le dos jusqu'à destination. Un bourdonnement de réacteurs brise le silence, des perturbations les réveillent par intermittence. Interminable est la phase d'atterrissage sur la base militaire sécurisée, la plus redoutable. Au camp Delta, les goulags de Cuba, même camp Beta, n'y pourrait rien en tant qu'un faux cas. Vocation terroriste, alors prison de terreur en Occident, aucun soulèvement d'aigreur, non, rien que support de politiques entités, même si les droits de l'homme, cette base est l'entité jeunesse. Dans cette pièce, ils repensent à leur jeunesse, accueillis par la GGN, non pas la Convention de Genève. Guantanamo. Réveillez-nous comme un nouveau-né qui vient de naître. À l'idée Johnny, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, n'a rien à se mettre si ce n'est une combinaison teintée du traditionnel colorant des prisons. En gros caractère dans le dos est écrit propriété du gouvernement des États-Unis. Ouvrez les portes de Guantanamo, Sandal et Barreau, remplace Santiago et Perfecto. Drôle de voyage pour star de rock'n'roll, maintenant menotté à des anneaux, cimenté au sol, cimenté au cerveau, sans les liquides Johnny ne pourra plus jouer de la guitare électrique. Quelques jours plus tard, dans la cellule voisine, Zizou, de son vrai nom Zidane, Yazid Zinedine, interrogé pour ses voyages en Algérie, son argent aurait servi à financer des groupes salafis. Dénoncé par un concurrent sportif, un certain Materazzi Marco, italien natif, plaide innocent, Zizou compte porter plainte pour les multiples coups reçus au pied sur sa plante. Des coups de Rangers de type Doc Martins, frappés à plusieurs reprises par le corps des Marines. Une coupe pure près de l'artère fémorale mettra fin à sa carrière internationale. Quelques mois plus tard, dans la cellule mitoyenne, quelques privations plus tard, essentiellement de sommeil. Yannick Noa désormais n'est plus le même, il cherche le sommeil sous une ampoule imitant le soleil. Gréviste de la faim, nourri de force, un œsophage artificiel glissé dans sa gorge endommagera sévèrement ses cordes vocales et fera du chanteur un parolier sans son organe. Étrange torture acoustique, un transistor qui du matin au soir joue la même musique, du hard rock metal à plein volume. Mort clinique pour Yannick, l'athlète n'est plus qu'un légume. Guantanamo. En bonne et due forme et de rigueur, personne n'en va, ni fouteux, chanteur ou rocker. Petite frayeur pour grande réalité d'une majorité d'inculpés à Cuba B, où les suicides sont des tactiques de guerre asymétriques, où les grèves de la faim n'ont d'écho que dans les ventres vides, où le waterboarding n'est pas une attraction, mais la noyade par simulation, où la privation sensorielle est censée stopper la diffusion à profusion du sang d'innocents. Sont-ils sourds au sein de cette enceinte? Aucun secours quand un soldat urine sur un livre sain. Quel qu'il soit, le monde s'adulte dans la soie. On remplit nos piscines même si nos semblables ont soif. Petite histoire de rappeurs consternés, le plus dur étant de se sentir concerné. Alors je parle de prisonniers islamiques derrière un masque représentant les symboles démocratiques, que chérissent le cœur de tous les gens pour qu'à Guantanamo fleurissent les tombes des innocents.
Chers chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission qui explore, grâce à Samuel et à nos invités, les liens entre sciences sociales et politiques.
Et pouvoir.
Et pouvoir, très précisément. Merci Samuel. Alors,
la politique n'étant qu'une déclinaison du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser ce que tu dis, Mariama, au fait qu'on n'a absolument pas défini ce qu'était le pouvoir et qu'on en parle comme si ça allait de soi, alors qu'en fait, c'est une notion qui, comme toutes les notions qui semblent aller de soi, sont en fait extrêmement difficiles à définir. Finalement.
Alors, je te laisse la parole, vas-y, essaie de la définir. Tu as 10 secondes.
Alors 10 secondes, ça va être compliqué parce que Michel Foucault a passé une vie entière à essayer de le définir et je ne sais pas s'il en
tient. C'est de l'humour.
Non, mais en fait, ce qu'il faut entendre par pouvoir, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, large que ce qu'on a l'habitude d'entendre.
On peut faire une définition négative, c'est tout ce que j'aime pas.
Ouais, mais c'est tout ce qu'on n'aime pas, mais qu'on a tendance à reproduire malgré nous. Et c'est là que ça devient intéressant. Surtout à la Fédération anarchiste qui est quand même une fédération remplie d'hommes de pouvoir, bien qu'ils prétendent ne pas en avoir. Bref. On va quand même passer à autre chose parce que c'est pas très intéressant la FA quand même. On va parler de sciences sociales. Donc le pouvoir effectivement peut se décliner dans du pouvoir politique et c'est peut-être ce dont à quoi on va penser instinctivement, au pouvoir de l'État, pouvoir de la police, bon, etc. Mais le pouvoir c'est aussi quelque chose qui régit peut-être l'intégralité des rapports humains. On a par exemple l'excellent livre de Bernard Lahir sur les structures fondamentales des sociétés humaines qui prétend qu'une des structures fondamentales communes à l'ensemble des sociétés humaines dont on a des traces jusqu'à présent, c'est que ce sont des sociétés de pouvoir, où il y a des rapports de pouvoir entre êtres humains, finalement.
Ouais.
Et il le reproche à plein d'éléments, dont la fameuse altricialité secondaire. Alors ça, c'est déjà, ça fait peur, le mot.
Le mot altricialité fait peur. Peut-être, mais Quentin, il pourrait dire deux mots sur l'altricialité et sur peut-être, rapidement, hein, mais qu'est-ce qui pourrait poser un peu problème quand même dans l'approche de Lahir sur les rapports de pouvoir? Parce que, on va dire, on a un postulat sur lequel on pourrait être d'accord, toutes les sociétés humaines sont des sociétés faites de rapports de pouvoir. Mais dans Lahir, dans son livre, il y a quand même une... Bon, c'est une digression qu'on fait, mais je pense qu'elle vaudrait le coup d'être faite, Quentin.
Ah, c'est un peu un guet-apens. Mais oui, pour les auditeurs qui n'ont probablement pas lu le livre de Lahir, qui en plus est particulièrement long, donc le terme d'altricialité renvoie à la dépendance des nouveau-nés de certaines espèces donc à leur mère, notamment. Et donc lui, en fait, ce qui mobilise surtout, c'est le concept d'altricialité dite secondaire. C'est-à-dire qu'il y a cette dépendance pendant la gestation, mais ensuite, il y a l'idée que chez certaines les espèces vont avoir plus ou moins de dépendance ensuite après l'accouchement, l'éclosion, ou je ne sais plus quel est le terme technique pour parler du moment où la gestation est terminée. Et que pour arriver à maturité, donc un organisme aurait une dépendance plus ou moins longue à sa mère notamment. Et que chez l'humain, on serait une espèce qui aurait particulièrement donc une altricialité secondaire assez forte et durable. Parce que donc un bébé, quand il est né, il n'est pas du tout indépendant, notamment via la question de l'allaitement.
Il n'est pas fini. Enfin,
c'est exactement ce qu'il dit, qu'il n'est pas fini. Et alors bon, d'ailleurs, les théories, on va dire neuroscientifiques, hein, vont même jusqu'à dire qu'on n'est pas fini jusqu'à 25 ans. Mais ça, là, voilà, on va un peu loin. Mais en tout cas, il y a cette idée de dire que cette dépendance de la progéniture à sa mère via notamment l'allaitement, qui implique énormément de temps, des ressources, d'énergie, etc., de la part de la mère, serait ce qui expliquerait effectivement l'émergence de rapports de pouvoir donc de type patriarcaux dans toutes les sociétés humaines. Et il reprocherait le fait en plus que ce serait un impensé des théories féministes. Mais en fait, voilà.
Ce qui est faux.
Voilà,
ce qui est faux.
En plus,
ce qui est faux.
Et même en plus, via le concept d'altricialité qui a été mobilisé aussi un petit peu par certaines chercheuses féministes en biologie. Mais alors, pour ce qui est de ce qui pose problème dans cette approche, globalement, donc on peut toutes et tous être à peu près, justement, vu que c'est pas du tout un angle mort, on est d'accord qu'effectivement, ça a été en tout cas une ressource de la part, je veux dire, des hommes pour exercer leur pouvoir sur les femmes. La problématique qu'il y a, c'est qu'en fait, l'AIR va faire comme si c'était quelque chose qui, en fait, s'imposait comme tel et qu'il fallait nécessairement utiliser donc l'épistémologie, les méthodologies et finalement les théories des sciences évolutionnaires, les importer dans les sciences sociales et que ce serait forcément ce qui allait éclairer notre manière d'approcher la question. Et en fait, il va produire une analyse, on va dire, qui est transhistorique. Et selon lui, l'idée, ça va être de dire que oui, mais alors ça permet de comprendre pourquoi à chaque fois ça a réémergé. Mais au fond, c'est une perspective qui va écraser en fait les déterminations historiques sur des temps plus courts. Il y a une phrase voilà, sur laquelle on est beaucoup revenu qui était « Oui, alors que pèse la révolution industrielle face à 300 000 ans d'histoire évolutive ?» Et en fait, ça va être un peu ça qui va finalement cadrer son propos, c'est de dire que cette altricialité secondaire, elle est si importante que finalement, on ne peut pas comprendre les rapports de pouvoir entre hommes et femmes tels qu'ils se déploient aujourd'hui si on n'a pas en tête cette idée. Alors, en fait, voilà, l'idée d'altricialité secondaire, c'est pas juste l'idée de dire qu'il y a une dépendance de l'enfant envers l'adulte, et c'est ça qui fait que c'est quand même très particulier, parce que sinon, on pourrait utiliser un autre concept, c'est que c'est un concept qui vient des sciences évolutives, et qui donc raccroche cette dépendance à l'évolution, et donc, finalement, à l'idée que ce serait lié, on va dire, à la manière dont se construit l'espèce en tant que telle. Et donc, quand on dit altricialité secondaire, on n'étudie pas juste la dépendance des enfants à leur mère et la manière dont c'est utilisé. Par exemple, on va dire, on pourrait voir de manière très concrète hein, par rapport aux différences salariales, toutes choses égales par ailleurs, entre hommes et femmes.
Qui perdure.
Voilà, qui perdure. Et en fait, qui est notamment justifié parfois par le fait qu'une mère va être indisponible, etc. Plusieurs fois dans sa guerre, mais en fait, non, il faut aussi se dire que cette dépendance, elle, est raccrochée à quelque chose qui serait de l'ordre plus ou moins de l'essence de ce qu'est l'espèce humaine et de processus évolutifs.
Ah bah, moi, j'avais pas compris comme toi. Hein. Bah. Moi, je pense qu'il dit simplement, c'est que tous les êtres humains, ils ont une tendance à reproduire ce qu'ils connaissent. Parce que ça les rassure. Et ça, c'est plutôt psychologique comme argumentaire.
Hein. Ah, alors... On pourra en parler des heures. En fait, ça, c'est l'autre. On va dire qu'il y a l'altricialité secondaire, c'est un des gros arguments de son ouvrage. L'autre, effectivement, ça, c'est plutôt quand il va parler de ce que c'est que la culture et la différence entre culture et social. Dire qu'il y a du social chez toutes les espèces, que par contre, la culture, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement le propre de l'homme, mais qui serait vraiment quand même dans une mesure telle qu'elle se déploie chez l'homme, donc avec des formes symboliques, autonomisées et transmises, qui seraient vraiment... surtout présente chez l'homme et qui expliquerait une espèce de spécificité humaine malgré tout. Mais donc ça c'est. Mais en fait, là aussi, il va quand même le raccrocher, voilà, à une perspective évolutionnaire et donc dire que c'est ce qui va définir l'espèce humaine. Donc en fait, il y a une forme de. À la fois, il va dire que oui, mais en fait, il y a quand même des possibilités d'évolution, mais quand même, il y a cette espèce de cadre en commun qui est indépassable.
Pardon, c'est peut-être, en fait, pour terminer notre digression, c'est peut-être une conception un peu réductionniste du pouvoir, parce qu'elle se retrouve très rattachée à une conception biologisante. Et justement sur cette idée que vaut la révolution industrielle face à 300 millions d'histoires, en réalité elle vaut beaucoup de choses parce qu'elle fait évoluer les rapports de pouvoir de manière structurelle dans les rapports sociaux.
Surtout ça explique l'extrême et insupportable tolérance qu'ont les êtres humains à toute forme de pouvoir. C'est ça surtout qui m'a marqué moi dans chez l'AI.
Et pourquoi les gens ne se révoltent pas plus?
Voilà, c'est ça, oui. Enfin,
C'est une réponse quand même un peu simpliste à un problème quand même très complexe.
Oui.
Non, c'est une question. Pourquoi les gens se révoltent pas?
Oui, non, je disais la réponse de l'AIR à cette question.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Emmanuel?
Et oui, moi j'allais juste rebondir sur ce qu'a dit Quentin très rapidement. Sur cette question d'altricialité secondaire, en fait, ça n'a rien de nouveau. Et en fait, quand on lit les théoriciennes féministes du Caire, notamment, en fait, elles vont même plus loin que penser une altricialité secondaire. Elles pensent une altricialité ternaire, même si elles ne posent pas ce mot, mais qui est de dire que, en fait, les êtres humains sont en général interdépendants et, entre guillemets, tous vulnérables, et que, en fait, il y a déjà cette pensée de la vulnérabilité comme anthropologie humaine qu'elles opposent à l'anthropologie individualiste, kantienne, rationaliste, etc. Eh bien, tout simplement, elles aussi, elles vont la chercher dans l'altricialité primaire, dans l'altricialité secondaire, mais sans considérer qu'il y a un rapport surdéterminant du social sur le culturel. C'est-à-dire que le culturel peut tout à fait rebattre les cartes du social. C'est-à-dire que l'invention du lait maternel, par exemple, va complètement changer la façon dont la dépendance des enfants va être gérée. Mmh. Comment on va pouvoir créer des institutions spéciales pour les enfants, là où avant on était obligé de les cantonner à des nourrices, etc. Et donc, qu'il ne faut pas chercher dans une naturalité quelconque la question de la domination. Que c'est peut-être une bonne idée d'un point de vue génétique, du point de vue des origines, mais que ça n'a pas de pertinence explicative pour du point de vue
historique.
Historique, en fait. Historique. Voilà, je reclos cette perspective, mais on montre bien une tension, en tout cas, dans la conception du pouvoir. Soit c'est quasiment dans la nature humaine que de s'inscrire dans des rapports de domination, et je crois qu'ici, on n'est pas trop d'accord avec cette idée.
Non.
Moi, je ne suis pas d'accord avec l'existence du concept de nature humaine, de toute manière.
Exactement. Bah,
justement, Lahir, il dit, à sa manière, il y a une nature humaine, mais qui n'est pas celle que les fachos mettent en avant, tu vois.
Ça, sur ça, je suis d'accord, mais je pense qu'on pourra avoir cette conversation après, parce que sinon, on va pouvoir en parler pendant une heure.
On aura même une émission, en fait, entière à ce sujet. Ce sera le clash François versus Quentin. Stay tuned.
Et on a hâte.
Et on a hâte. Donc voilà, moi, mon point, c'était de dire que c'est une manière de définir le pouvoir, qu'on peut voir que le pouvoir s'intrigue dans des logiques socio-biologiques, par exemple chez Lahir, mais que le fait est que Emmanuel a posé le mot qui a été important, c'est le mot de domination. Mmh. C'est que le pouvoir, en tant qu'il structure des rapports sociaux, structure donc des rapports de domination. Mmh. Ces rapports de domination sont éminemment plus complexes à étudier que ce à quoi ils se donnent à voir de prime abord. Je pense que c'est peut-être ce qui fait la plus grosse difficulté de cette étude et du rapport qu'il peut y avoir entre sciences sociales et pouvoir ou sciences sociales et domination, c'est que les rapports de domination, ils ont cette caractéristique qu'ils se cachent dans les rapports sociaux dans lesquels les êtres humains qui prétendent les étudier sont impliqués. Donc autrement dit, un être humain étant impliqué dans les rapports sociaux de pouvoir, dans les rapports sociaux de domination, un chercheur l'est aussi. Même si les chercheurs ont la prétention parfois d'être au-delà des êtres humains,
Les anards, ça.
Ouais, ouais. Ben, ça va ensemble souvent des fois. Hein. Si on prend Graeber par exemple, enfin bref. Ou Pierre Clastres d'ailleurs. Toujours est-il que voilà, mon point étant, les rapports de pouvoir, vu qu'on est toujours intriqué dedans, c'est très difficile à étudier.
La prise à distance est difficile.
Oui. Et
parce qu'on ne l'admet pas facilement.
Mais c'est le sujet central des sciences sociales. C'est comment se positionne le chercheur vis-à-vis. Et c'est une question, peut-être pour finir mon propos, c'est une question qui traverse là pour le coup l'intégralité des sciences sociales.
Oui.
Parce qu'on a Weber qui nous fait le savant et le politique, hein, par exemple. Tu voulais le dire
exactement.
Ah, c'est pas de chance.
Désolé.
Tu peux redire le savon et le politique ou
Le savon. Ouais. Voilà, ouais.
Même si les deux se font mousser, très souvent.
Ah, excellent. C'est très glissant, cher camarade.
Exactement. Bon.
Incroyable. Franchement, il y a des blagues ici. Il y a pas mal. Hein.
Pépite. Donc, le savant et le politique.
Le savant et le politique. Non, mais voilà, bon, c'est une question qui traverse la sociologie, mais qui traverse aussi l'histoire. Mais il y a quand même une période charnière, on va dire, pour toute cette question de sciences sociales et de pouvoir. C'est la période dite structuraliste et post-structuraliste, mais donc qui est en gros la période d'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Où là, encore une fois, on parle d'Occident. Parce que, on parle de sciences sociales. Il faut replacer quand même qu'on parle de l'Occident et qu'il y a quand même d'autres lieux de production de savoir dans le monde que l'Occident, et que c'est souvent des choses qui ont pu être dites aussi.
Auquel autres lieux de production qui ne seront d'ailleurs pas reconnus comme science.
Voilà. Donc, bon.
Ouais, le pouvoir, oui, Confucius, il n'avait rien contre. Hein.
c'est vrai qu'on peut prendre des philosophies un peu lointaines comme ça, mais. Disons, même sur des éléments plus récents, en fait, il y a un certain nombre de savoirs qui sont marginalisés en sciences sociales, mais on en reviendra peut-être ultérieurement. Là, pour parler vraiment des années structuralistes, je vais me lancer dans l'exercice ultra-périeux d'essayer de vulgariser ce qu'est le structuralisme, les années structuralistes, disons...
Non, mais... tu vas faire ça très bien.
Tu veux le faire, Emmanuel ?
Sinon, je peux tenter.
Vas-y, Emmanuel.
Ouais. Heureusement, il y a un très bon historien du structuralisme qui s'appelle François Doss, qui nous mâche un peu le travail.
D-O-S-S-E.
D-O-S-S-E, exactement. Lisez, c'est très bien. Et en gros, qui définit le structuralisme comme un moment de l'histoire des sciences sociales en général, puisque le structuralisme va avoir son versant linguistique, sociologique, anthropologique, surtout avec Lévi-Strauss, qui est un nom qui parle beaucoup historique.
Sociologique.
Sociologique, etc.
Avec Bourdieu.
Avec Bourdieu. Et cette idée, l'idée centrale du structuralisme pour Doss, c'est de ne plus penser l'histoire comme première et de penser qu'il y a des invariants universels, anthropologiques, qui vont structurer les sociétés et qui vont peut-être se décliner de façon particulière selon certaines, contingences historiques, mais que dans chaque société on peut retrouver la présence de ces invariants. Le tabou de l'inceste, par exemple, sur lequel je vais pas m'apesantir très longtemps parce que non, ça serait très intéressant.
Il n'est pas un fan du tabou de l'inceste, il y croit absolument pas.
Mais en tout cas, c'en est un exemple.
Et sinon, il y a Dorothée aussi, peut-être pour là, si vous voulez, une anthropologie de l'inceste, c'est quand même plus intéressant.
C'est plus intéressant que Lahir et Lévi-Strauss. Les deux. Mais dans tous les cas, ce mouvement de rejet de l'histoire, d'ailleurs, François Doss l'explique très bien. C'est la faillite du marxisme, parce que le structuralisme apparaît, à la fois du marxisme et du nazisme, parce que les deux étant des téléologies de l'histoire. Et quand on voit les crimes de masse qu'ils ont produits, bon, les intellectuels qui avaient adhéré plutôt au marxisme quand même se disent oh, ça pue hein, quand même. Hein. On vient de se rendre compte qu'il y avait le goulag. Donc on va peut-être mettre toute cette tendance historique de côté parce qu'elle est trop téléologique, trop tournée vers l'idée d'une fin de l'histoire. Et on va chercher des invariants et ça sera très bien. Voilà pour la présentation.
Et peut-être si vous voulez l'exemple parfait du marxiste repenti, on a Maurice Godelier, quoi.
Exactement.
Vous pouvez vous pencher sur ça. Maurice Godelier, c'est un anthropologue qui a été maître assistant de Lévi-Strauss et de Fernand Braudel. Et c'est quelqu'un d'intéressant, même à regarder hein, sur YouTube, il y a plein de conférences ou quoi, où il parle de comment il est sorti du marxisme justement et de comment il a évolué dans cette période structuraliste et puis post-structuraliste. Voilà, c'est toujours intéressant. Donc si vous voulez des formats peut-être audio, allez sur YouTube.
Oui, parce que c'est vrai que les intellectuels de la seconde moitié du XXe siècle, quoi qu'on pense, les fachos, ils sont sortis de la déification du marxisme, enfin du socialisme réel. Voilà.
Oui. Et le point où je veux en venir sur le structuralisme, et je crois que c'est aussi le point sur lequel tu voulais en venir, c'est que justement, puisqu'il s'oppose aux anciennes visions, aux anciens paradigmes presque scientifiques qui étaient très historiques dans les sciences sociales, il essaye de se constituer comme un pouvoir autonome. Petit à petit. Même s'il ne conçoit pas le pouvoir dans l'histoire, puisque c'est avant tout une histoire d'invariants, lui se pense, dans la société le structuralisme dans la société du XXe siècle, se pense comme un pouvoir de plus en plus autonome, qui n'a plus forcément besoin de servir les intérêts de l'État, et qui va, par exemple, avec Lévi-Strauss, attaquer très fortement l'idée d'existence de race biologique qui était encore postulée au XIXe siècle chez Gobineau. Et là, je fais référence à Race et Histoire.
Après Triste Utopie, c'est deux meilleurs livres, à mon sens.
Je pense que c'est même presque son meilleur livre, mais on pourra en débattre plus tard. Mais en tout cas,
celui que tu préfères.
C'est ça, celui que je préfère.
Parce que moi, je l'ai pas du tout aimé.
Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que, à travers le structuralisme, on voit bien que les sciences sociales se conçoivent comme un pouvoir au sein de la société, même si elle ne pense pas encore tout à fait le pouvoir dans sa dimension historique. Ou alors elle se refuse à le penser. Et il y aura un troisième mouvement après. Mais je ne sais pas si c'est...
On va dire que, peut-être pour étayer ce que tu es en train de dire, dans le structuralisme, le fait d'avoir pensé des invariants, on va dire que ça a posé un ensemble de problèmes théoriques qui n'ont pas nécessairement été correctement adressés. Et donc la question du pouvoir en fait partie. Et de toute façon, assez rapidement, on va avoir des mouvements de critiques qui vont émerger. Les principales figures du structuralisme, c'est Lacan, c'est Lévi-Strauss.
Saussure.
Saussure, évidemment, pour la linguistique. Enfin, disons que c'est plus l'utilisation qu'on en a fait. Mais le point peut-être central dans ça, c'est que au moins c'est un... disons que c'est un mouvement intellectuel qui va chercher à poser la question du pouvoir d'une manière autre que la manière dont le posaient les marxistes, qui étaient dominants, en fait, on va dire, dans les sciences contestataires, parce qu'évidemment, il faut bien voir le double jeu, parce que d'un côté, effectivement, dans le champ des études, on va dire, contestataires, bon, on ne peut peut-être pas dire contestataires, mais enfin, des études critiques, voilà. Évidemment, le marxisme occupe une place très importante à l'université dans ces années-là, mais il faut voir aussi qu'à l'époque, on a la Sorbonne, c'est un endroit assez réactionnaire quand même, et que ce soit le marxisme ou le structuralisme, la Sorbonne n'est pas vraiment un endroit pour aucun des deux, en fait.
C'est la Sorbonne, c'est un endroit où il y a beaucoup de forces de l'ordre, surtout.
Oui, on pourrait l'entendre dans ce sens-là, de oui, force de l'ordre intellectuel. 70,
oui. Et de force de l'ordre tout court, par moment.
J'appelle ça des chiens de garde.
Oui, comme Paul Nizan, bref.
Et je vous renvoie à l'excellent documentaire de Yannick Argoat et de Gilles Balbastre, Les nouveaux chiens de garde, où on voit Pierre Desgroppes, en entrée, expliquer pourquoi il faut lire Paul Nizan. Une archive incroyable.
C'était cette référence que je faisais, merci Marama.
Je t'en prie.
Pour les précisions que je n'aurais pas su apporter. Moment intellectuel de structuralisme, donc qui est aussi un moment de contestation. Il se déroule aussi dans le cadre des années 60, et notamment des années 68, même si après 68, très rapidement, c'est contesté. Parce que, justement, et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que le structuralisme, au départ, quand il commence à émerger, il émerge en tant que critique, et de critique de choses qui sont instituées. Je parlais notamment de la Sorbonne. Mais il faut bien voir que, d'un point de vue très concret, les auteurs structuralistes connaissant un certain succès dans les années 50 et dans les années 60, ils obtiennent aussi des positions de pouvoir qui les amènent eux-mêmes à peut-être parfois être capables de se soustraire à certaines critiques ou de ne pas vouloir les entendre. Et c'est là qu'on voit que, y compris dans des sciences sociales critiques ou dans la production de savoir critique, on se retrouve en fait dans des situations ou une école interprétative, même si, bon, c'est très difficile de dire ça pour le structuralisme, mais on va me permettre la facilité de langage parce que on n'a qu'une heure et demie. Il y a un changement de position dans le champ académique du structuralisme. Il y a un changement de position entre la marge et le centre. Et donc c'est là que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on a des sciences sociales qui prennent conscience de leur rôle historique de pouvoir, qui prennent conscience, on prend conscience du rôle qu'a eu l'anthropologie pour la colonisation, hein, pour donner un exemple des plus triviales. Triviaux. On a cette prise de conscience des sciences sociales de leur rapport avec le pouvoir, mais en même temps, on a aussi ce changement de position entre la marge et le centre de la part du structuralisme. Et c'est peut-être sur cette tension permanente qui existe dans les sciences sociales qu'on va revenir en troisième partie après la pause musicale, en fait.
D'accord. Merci Samuel. Jean-Michel, s'il te plaît.
M'emmène dans la ville d'Hébron, ancienne cité à la minorité d'Hébreux. Souffleur de verre pour le compte de mon oncle, mon nom c'est Daoud, un arabe au regard ténébreux. Je suis né dans ce genre de nid, tout près du quartier juif, en Cisjordanie. Jamais je ne sors la nuit, pas par peur du noir, mais par un couvre-feu qu'on me force à suivre. Mon défunt frère est mort l'an passé, officiellement pour défaut de laisser passer. Il voulait faire de mes 16 ans un jour exceptionnel. C'était sans compter de sa halle et son excès de zèle. La garde frontière en charge de son contrôle a cru drôle d'ouvrir la boîte au couteau commando, celle qui contenait le kéfier traditionnel. et qui le soir constituerait le fraternel cadeau. Gâteau vandalisé par les gants de cuir d'une soldate qui n'avait que l'intention de nuire. Une vexation à laquelle mon frère réplique par des insultes et des menaces en langue arabe et en hébraïque. De quel droit tu crois pouvoir me gâcher la fête? Je ferais toi ma chèvre si j'avais le doigt sur la gâchette. Enlève tes sales pattes tout de suite sur cette écharpe. Aveuglé par la colère, un coup lui échappe. Il n'en fallut pas plus pour que le canon crache le feu. Un triplé d'M16 dans le poitrail qui craque le mieux. Ce fut les derniers mots de mon frère, et leur sens était dirigé en ma faveur. Alors aujourd'hui, à la date anniversaire, je m'apprête à rendre l'appareil à l'adversaire qui m'a ôté la compagnie de mon aîné, de mon bien-aimé, m'a pris une large part de mon âme peinée. On me prêtera des intentions politiques. Les médias du monde diront que je suis croyant fanatique, que j'ai agi programmé par un parti terroriste et qu'aussi j'enterre ici tout espoir de paix possible. J'aurais mille raisons de me ceinturer le torse, ce qu'a enduré mon peuple dans un sanctuaire de la mort. C'est blocus, mépris, obus, phosphore blanc, occulte, bouscule l'ONU qui fait semblant. Interdiction d'accès à certaines professions, et sur ta carte d'identité, on y impose ta confession. C'est donc ça la seule démocratie du Proche-Orient, agir en toute impunité sans qu'on ne lui reproche rien. Mais ma vengeance n'est que personnelle. Lorsqu'on arrive près du checkpoint des criminels, dans le bus, 10 personnes tout au plus, un enfant étrange qui vient de monter semble perdu. Ses yeux me fixent avec insistance. J'ai la drôle d'impression qu'il cherche assistance. Mais mon pouce a déjà enfoncé le bouton rouge. C'est ici que se rencontrent David et Daoud. S'est fait exploser. David est mort et ses parents vont se venger. Enfin du destin, enfin de la guerre. Palestine libre.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Chers auditeurs, je vous rassure, nous sommes dans la dernière partie de l'émission. Une demi-heure. Et vous allez pouvoir digérer. Samuel, à toi.
Non, mais c'est vrai que c'était un peu chaotique, mais on est anarchiste, donc c'est normal. C'est le désordre plus le pouvoir, c'est ça l'anarchie? Non? Si je me souviens bien de la citation. Bon, enfin bref. on parlait en fait de... On va essayer de recentrer les choses en les schématisant. On parlait du fait que dans les sciences sociales, il existe une tension entre des savoirs plus marginaux, des savoirs plus centraux. Entre des... personnes, des individus concrets et des écoles de pensée concrètes qui sont au centre des lieux de pouvoir de la science, que sont les institutions, etc., etc., et des formes de savoir qui peuvent exister à la fois à l'intérieur de la science, à la fois en dehors, et qu'il existe des rapports. Voilà, c'est ça qu'on essaie de dire, c'est que dans les sciences sociales et dans le rapport dans lequel les sciences sociales construisent au pouvoir et à la domination, il existe des marges et des centres qui interagissent. Par exemple, on va dire quelque chose de concret, pour exemplifier. C'est posé après, surtout après la Seconde Guerre mondiale, et puis, on va dire, il y a eu différentes vagues, je vais simplifier, c'est posé la question de la domination masculine, la domination patriarcale. Cette question était absente des sciences sociales, telles qu'on en a discuté en début d'émission. Mmh. Elle s'est progressivement imposée. aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut dire à minima que la question de la domination patriarcale n'est plus ignorée par les sciences sociales. Elle s'est constituée en champs à part entière, les études de genre, par exemple. Et même dans des champs qui ne sont pas le champ des études de genre, on retrouve à chaque fois des formes d'études qui vont prendre en compte les questions de genre. Tu prends l'histoire militaire. Là, par exemple, dans l'histoire militaire, s'est développée la question du rôle de la femme dans les armées. Voilà.
Et,
voilà. Donc on voit qu'on a un savoir qui était marginal, à savoir celui des féministes, celui de militantes qui n'étaient pas à l'intérieur de l'université, qui est devenu plus proche du centre.
Ouais. Et de façon très concrète, hein, ça s'inscrit dans des colloques, dans des revues, dans des positions au sein de l'académie, par exemple, directrice de tel laboratoire, etc. Donc c'est vraiment, c'est une centralité matérielle dont on parle là. C'est pas qu'une centralité théorique. Je repasse la parole à Samuel.
Mais non, mais t'as raison de spécifier. Moi, par exemple, quand j'ai fait mon master à Paris 1, la directrice de mon master et toutes les titulaires, c'était toutes des femmes. Et c'était toutes des femmes qui avaient travaillé sur des études de genre, genre et travail notamment. Mais donc on voit bien que elles ont accès à des positions de pouvoir, puisque être titulaire en fait à l'université ou être directrice d'un master ou d'un laboratoire, c'est une position de pouvoir par définition.
Je vais faire le
nuanceur.
Voilà, le nuanceur. Non, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, alors, ce qui est dit est vrai globalement, mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, la manière dont sont décidés les directeurs et directrices de laboratoires dans les universités normales, entre guillemets, et dans les laboratoires normaux, c'est plutôt des histoires où il y a des durées maximales et qu'au final, c'est pas forcément toujours ce que cherchent les personnes. En fait, il y a une tension parce qu'à la fois, ça fait avancer les carrières, mais en fait, c'est souvent des personnes en fin de carrière qui prennent ce temps parce qu'on n'a plus le temps de faire de la recherche quand on fait ça. Donc en fait, c'est pas la même chose d'être directrice ou d'un très grand laboratoire ou d'être directrice d'un laboratoire un peu plus modeste dans lequel, au final, c'est pas forcément... Enfin, ça va être quelque chose parce que personne ne voulait le faire et qu'on se retrouve avec ça. Pareil pour les directions de département. Donc c'est un peu compliqué. Mais après, bon, quand on est dans un grand laboratoire d'histoire à la Sorbonne, par exemple, je pense que c'est pas la même chose.
Oui, et je rajouterais aussi qu'il faut aller voir, je pense, du point de vue des financements de la recherche. C'est là où on peut peut-être trouver la question. Enfin, où on peut
les vrais rapports de pouvoir, ouais, c'est dans la masse financière.
C'est ça. Et on voit effectivement qu'il y a eu, à partir des années 70, 80, etc., de plus en plus de financements qui ont été alloués sur de la recherche féministe, sur de la recherche décoloniale ou postcoloniale, etc.
Ça a été une vraie bataille pour les
Et ça a été une bataille et ça a été une lutte. Et donc une sorte de lutte pour l'intégration. Je repasse la parole
à Samuel.
Donc oui, donc je pense qu'on a pu exemplifier de manière concrète pour peut-être avoir un propos moins cryptique que celui de la deuxième partie de l'émission. Mais du coup, la question que, enfin, la question
cryptique, ça veut dire que c'est caché, quoi.
Ouais, c'est dans une crypte, quoi.
Voilà. Il est con.
mais donc. Donc bon, le fait étant que on a des savoirs qui ont évolué dans leur position et non, mais si tout le monde rigole, moi je peux pas être sérieux là. Donc on a des savoirs qui ont évolué dans leur position dans les rapports de pouvoir au sein de la société et le fait est que ça a aussi amené à des reconfigurations de la manière dont on pose certaines questions en sciences sociales. On l'a montré à travers l'exemple du féminisme, mais du coup ça pose la question de intégration versus exclusion, en fait. C'est ce qui est le rapport central, en fait, de n'importe quel champ, finalement. C'est le rapport entre intégration et exclusion. Et dans le champ spécifique des sciences sociales, il y a effectivement cette conflictualité très concrète sur les financements, les postes, bon, etc., etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi une pas une concurrence, même si on pourrait presque appeler ça une concurrence en un sens, mais...
Une saine compétition, je dirais.
Une saine compétition dont il s'agirait de définir le niveau de sanité.
C'est deux mots assez antagoniques, ça. Saine compétition.
Entre des savoirs plus ou moins marginaux. Voilà. Mmh. C'est ça le point que je voulais poser. Et on peut voir, en termes d'autres luttes, par exemple, que le féminisme, on peut voir les auteurs décoloniaux,
oui,
dont on voit qu'ils ont créé de fortes polémiques dans leur mobilisation par certains universitaires français. Et vous avez cité les postcoloniaux tout à l'heure, mais c'est un peu le même problème. Pourtant, on voit qu'il y a quand même des grands noms, de grandes figures de certains champs qui peuvent poser des questions. Et bon, si on prend Chakravarti, par exemple, qui est un des historiens phares, on va dire, des sciences postcoloniales, c'est quelqu'un qui est très cité, c'est quelqu'un qui est mondialement reconnu. Je ne sais pas si on peut dire que Chakravarti est encore à la marge. Mais toujours est-il que voilà, il y a cette problématique qui se pose dans les sciences sociales. Et pour autant, il y a aussi toujours cette réaction. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui, à travers les conflits politiques qui se posent au sein des sciences sociales, qu'il y a une réaction interne. Alors, à la fois interne par les chercheurs eux-mêmes, je prends l'exemple de Nathalie Heinisch. Voilà, on a un exemple d'une personne odieusement réactionnaire qui fait des paniques morales sur le wokisme. Donc, une personne interne à l'université, bon, je citais elle, mais enfin, il y en a d'autres. Et aussi une implication du politique, où on a, par exemple, on a fait voter une loi qui oblige maintenant les docteurs à faire serment. Hein,
c'est un peu différent.
Sur la sacro-sainte neutralité axiologique qu'ils devront rechercher tout au long de leur glorieuse carrière universitaire. Il y a un peu comme ça de réaction quand même dans ce genre de pratique.
Cher docteur.
Oui, non, mais en fait, je pense que un meilleur exemple, ce serait plutôt le fameux colloque à la Sorbonne où là, il y avait des personnalités politiques et des personnalités. On va dire universitaires, académiques. Parce que pour le coup, non, alors je comprends qu'on puisse lire le serment comme ça, mais en fait, c'était encore plus bête, hein, la manière dont il est arrivé. C'était plutôt dans tout ce qu'il y avait eu autour du Covid. Il y a eu ensuite des questions d'intégrité scientifique. C'était pour essayer d'inscrire le concept ou la notion d'intégrité scientifique dans la loi, mais ils n'ont pas réussi. Et en fait, du coup, à la place, ils ont fait passer une espèce de serment un peu symbolique qui était censé permettre d'utiliser ça contre des gens qui nous feraient faire de la fraude scientifique. Alors par contre, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne pourra pas être utilisé ensuite pour... par contre, oui, il y a moyen que ce soit utilisé ensuite pour critiquer, par exemple, effectivement, les autrices et auteurs des coloniaux. Mais je pense que oui, non, le colloque à la Sorbonne est un meilleur exemple de cette intrication entre...
Est-ce que tu pourrais peut-être... on va dire
donner le contexte du colloque à la Sorbonne pour ceux qui
ne voient pas forcément.
Essayez de m'en souvenir, mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que il me semble que c'était survenu après plusieurs polémiques, dont justement celle de Nathalie Heinisch, celle aussi de l'ouvrage de. Je pense que c'était un peu après l'ouvrage de Noiriel et Beau sur justement la race en sciences sociales. Et après ces choses-là, donc il y a eu, mais je ne sais même plus qui étaient les politiciens qui avaient fait ça, mais en tout cas, ils ont organisé en gros un colloque contre le. Je ne sais plus si c'était le wokisme, hein, carrément, peut-être que le terme utilisé était déjà ça en fait.
Oui,
voilà, ça servait contre le wokisme à l'université. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est que dans la liste des intervenantes et des intervenants, il y avait effectivement quelques universitaires, mais il y avait aussi, il me semble que, je ne sais pas s'il n'y avait pas Jean-Michel Blanquer qui était venu parler.
Oui,
voilà, et il y avait en tout cas plusieurs membres du gouvernement ou ex-membres du gouvernement ou proches, etc. Donc, qui étaient venus faire des interventions là-dessus, donc sur le wokisme à l'université. Donc là, on voyait quand même bien l'intrication. Et en plus, le fait que ce soit à la Sorbonne, ça avait quelque chose de symbolique.
Vous n'avez pas invité Luc Ferry, quand même.
J'irai regarder après, mais ce serait marrant.
Ah ouais.
Mais en tout cas, voilà, là, on voit bien effectivement que la vague réactionnaire déborde du seul cadre de l'université.
Et... J'aimerais rebondir justement parce que si je trouve ça très intéressant de montrer comment il y a une réaction au sens réactionnaire du terme, c'est le cas de le dire, à la fois extérieure et interne à l'université par rapport à ses savoirs, ses épistémologies et ses chercheurs et chercheuses, marginaux et marginales, qui prennent de plus en plus de positions centrales, il y a aussi un mouvement analogue et plus pernicieux peut-être d'une dépossession de ces savoirs marginaux, une fois qu'ils sont intégrés au centre, qui lorsqu'ils vont devenir des sujets de recherche à la mode, sur lesquels il y a beaucoup de financement, qui vont être pris en charge par toute une nouvelle jeune génération de chercheurs dans un esprit de construire leur carrière, mais qui vont désarmer le caractère critique de ces savoirs marginaux. Et donc, il y a aussi ce côté-là où, je pense par exemple à certains articles écrits par Claire Hancock, qui est une chercheuse qui a beaucoup travaillé en géographie, qui a beaucoup travaillé sur la notion d'intersectionnalité, et qui dit que, aujourd'hui, la notion, elle a été complètement appropriée par les chercheurs du Nord, par les chercheurs et des chercheuses blanches, par des chercheurs et des chercheuses bourgeois.
Et pas Crenshaw, elle est pas blanche.
Mais non, mais justement, c'est après Crenshaw, justement. C'est après Crenshaw, qui était dans une position marginale, que ces savoirs ont été appropriés par des personnes qui, dans la société, ont une position relativement favorisée. Et au sein de la science aussi. Et que cette réappropriation s'accompagne également d'un désarmement des potentialités critiques et subversive de ces savoirs originellement marginaux. Et
c'est donc il y a à la mode où il y a acculturalisation de ce qui faisait la mode indigène.
Exactement. Oui, c'est ça. Mm. C'est ça.
C'est le même processus.
Exactement le même processus. Et du coup, il faut pas simplement se méfier des réactionnaires. C'est ça que j'ai envie de dire. Il faut aussi se méfier de ceux qui sont peut-être très bien intentionnés, mais qui vont désarmer une critique qui aurait pu être une critique du pouvoir.
L'enfer est pavé de bonnes intentions.
Exactement.
On pourrait faire le parallèle pour en revenir à l'AIA avec son invariant là. C'est la lutte des générations, c'est tout. Mm. Tu vois, l'intersectionnalité, les réacs qui sont, on dirait qu'ils découvrent. Ça date de 80, Crenshaw. Donc, alors s'il faut 50 ans à l'université pour comprendre ce qui se passe, je pense que ça remet un peu en question leur authenticité et leur,
si tu me permets,
leur droit
mot,
à l'analyse.
François, sur ça, il se pose évidemment le problème, et je le vois venir à 10 km, de la transmission des savoirs entre ce qui va être du ressort des États-Unis et de la France. La France, je ne sais pas si on est champion, mais enfin, on est pas mal en termes de réactionnaires. Alors déjà, tout ce qui est anglo-saxon, évidemment, ça ne va pas du tout. Quoi, hein.
C'est déjà trop progressiste.
C'est déjà trop progressiste de parler anglais. Je caricature un peu et je vois Quentin qui fait la moue. Mais,
pour moi, l'anglais,
mais
c'est
pas, on va dire que ça, je pense, je pense que ça a joué quand même dans
d'Adam Smith, surtout, pour moi. Donc, voilà.
Non, mais je pense que ça a joué dans le temps qu'a mis l'intersectionnalité à atterrir en France. Cependant, on peut quand même dire qu'elle a d'abord atterri justement comme savoir marginalisé en dehors de l'université, et qu'après, elle s'est retrouvée en fait.
Oui, c'est ça. L'intersectionnalité, en fait, en France, elle apparaît pas du tout dans les revues académiques en premier. C'est des mouvements militants qui vont aller lire Crenshaw, qui vont aller lire aussi ce qui se passe du côté militant dans le monde anglo-saxon, et qui vont essayer de se servir de tous ces outils à la fois théoriques et pratiques, d'un point de vue très concret quotidien. Et c'est en ça que je dis qu'il y a parfois une réappropriation par certains et certaines chercheuses qui, en faisant des terrains sociologiques, par exemple, sur des pratiques militantes, se sont dit « Ah putain, ce concept, il est vachement bien et je pense qu'il peut être vachement trendy, je vais construire ma carrière dessus. » Donc il y a aussi, c'était ça moi que je voulais pointer.
De l'opportunisme.
Une certaine forme d'opportunisme, effectivement.
Non, puis c'est pas seulement que de l'opportunisme, c'est aussi dans l'air du temps. C'est comme quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, elle était dans l'air du temps. Vous êtes sévère là quand même.
L'intersectionnalité, c'est le zeitgeist de la postmodernité. Désolé pour cette blague d'universitaire, c'était insupportable.
C'était vraiment très insupportable.
En plus,
déteste les Allemands ici. Mais non,
c'est pas ça.
Mais allez, je.
C'est pas ce que je voulais dire.
Mais allez, je vais relancer Samuel sur cette question du centre et de la marge après ma digression qui montrait que le mouvement n'est pas forcément que des réactionnaires, mais qui peut aussi être interne et pas fondé sur des motifs conservateurs, etc.
Oui, je vois ce que tu veux dire par là, et comme disait Mariama tout à l'heure, l'enfer, ils peuvent être bonnes intentions, mais je pense que quand même sur l'appropriation, on va dire, de certaines écoles théoriques par des universitaires, je pense qu'elle est aussi, il y a quand même beaucoup d'appropriation chez des jeunes doctorants et jeunes doctorantes qui se fait, de manière compliquée, parce que le doctorant ou la doctorante, enfin nécessairement, c'est pas des personnes en situation vraiment de pouvoir en comparaison avec des titulaires ou quoi.
Et je pense qu'il y a quand même... Mais ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est observable à n'importe quelle époque de vie des sciences sociales, qu'il y a quand même, évidemment, plus d'attrait épistémologique pour l'intersectionnalité chez les jeunes doctorants, doctorantes, que chez des gens qui sont en place depuis 50 ans, etc.
Mais même, je pense qu'il faut même questionner les engouements des étudiants, pas ceux qui sont au niveau du doctorat, ceux qui sont en première, deuxième, troisième année. Et moi, j'ai discuté avec des étudiants, une étudiante, il y a longtemps, il y a 8, 9 ans. Et alors, je lui disais, moi, de mon temps, c'était le structuralisme qui était à la mode. Et elle me dit, ah ben non, c'est fini, ça, c'est l'intersectionnalité. Tu vois, elle était en deuxième année.
Oui.
Et justement, là, c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est que, autant le structuralisme, il pouvait avoir une portée critique modérée, dirons-nous, voire quasiment inexistante, pour ne pas le dire.
T'es dur.
Je suis un peu dur. Mais autant tous ces savoirs, qui sont en fait des savoirs assez situés, qui s'inscrivent dans cette question de ce gros mot de l'épistémologie du point de vue, qui, pour le dire trivialement, qui est que la production de connaissances se fait à partir d'un point de vue situé, ancré dans la vie, et qu'on ne peut pas s'extraire de...
On n'échappe pas à son ciel.
On n'échappe pas à sa condition. En gros. Que... Tous ces savoirs sont, parce qu'ils deviennent, parce qu'ils s'intègrent à la science comme pouvoir autonome, en fait, deviennent désarmés. Et du coup, moi, deviennent beaucoup moins critiques. Et c'est cette question-là, peut-être, que je trouve vraiment pertinente. C'est la science, quand elle est un contre-pouvoir du point de vue de ses marges, un contre-pouvoir contre son centre, mais aussi contre... des normes de domination, des rapports de pouvoir, lorsqu'elle se normalise, lorsqu'elle s'institutionnalise, perd ce caractère de contre-pouvoir. En tout cas, du point de vue de la science. Puisqu'on voit que, par contre, ça peut quand même... Presque, là, je vais prendre une caricature du siècle des Lumières, mais éclairer les mouvements militants en continuant à apporter des outils qui permettent de réfléchir les luttes, les modalités de son organisation, ses limites, etc., etc. Mais du point de vue de la science, une fois qu'un savoir marginal devient un pouvoir central, bah, ce n'est plus un contre-pouvoir, par définition.
Oui, puis...
Alors Samuel, pour que ça reste un contre-pouvoir, qu'est-ce qu'il faudrait ?
Alors attention, parce que là on est passé du descriptif au prescriptif et rien ne va plus.
Bah non, mais c'est une bonne question. Ça.
Mais c'est une excellente question.
Il faudrait que ce soit pas fait par des universitaires. Voilà.
Ouais, je suis assez d'accord avec Quentin.
Il faut abolir l'académie.
Il faut abolir l'université déjà. Non, mais en fait, bon, moi, souvent quand je dis ça, on me traite de pessimiste, mais moi j'aime bien poser une question assez simple. C'est avant de se dire, là si on prend l'exemple de ta question, c'est comment un savoir peut-il rester un contre-pouvoir ?
Mm-hmm.
Bon. Je pense que, avant de poser cette question, il faut en poser une autre à laquelle j'ai pas de réponse. Voilà.
Aïe.
La question, c'est un savoir peut-il rester un contre-pouvoir déjà ? Est-ce que c'est même possible ? Moi, je pense que, en toute honnêteté, c'est une question qu'on gagnerait à se poser dans plein de domaines. Je pense que dans le domaine des contestations sociales, ça, c'est aussi le genre de question qui est fructueuse. Mais si on reste là sur le domaine du savoir. Un savoir peut-il rester un contre-pouvoir ? Moi, je pense que non. Je pense que cette intégration qu'on peut constater, si on parle par exemple du structuralisme, ou comme disait François avec son exemple de avant c'était contestataire, et puis bon, maintenant c'est pas contestataire le structuralisme aujourd'hui, on voit très bien le côté intégrateur de l'université. Et je pense que le pouvoir. Nécessairement produit, tend à régir la manière dont sa critique est produite. Voilà, c'est ça que je vais essayer de dire.
Et si je peux essayer de reformuler, pour voir si j'ai bien compris, parce que je trouve ça super intéressant ce que tu dis, c'est que le pouvoir a cette dimension déjà à l'intérieur de lui d'absorber ses potentiels critiques pour se renforcer.
Je dirais que c'est même encore plus pernicieux que ça, c'est que les systèmes de pouvoir, en tant qu'ils sont tellement intégrés dans nos modes de pensée, de réflexion et d'être, ils atteignent un certain niveau de peut-être que naturalisation n'est pas le bon mot, mais enfin un certain niveau de sens commun, d'automatisme, qui font que ça devient très compliqué de les discuter. Et ça fait aussi qu'ils vont commencer à régir la manière dont on va en parler, en fait. Et mon point étant que si on prend par exemple l'intersectionnalité, Moi, ce qui me saute aux yeux quand je vois l'intersectionnalité, peut-être que je la lis bon, chez les autrices, c'est que Crenshaw, à la base, c'est une juriste. Oui. Et quand elle en parle, elle part quand même du cas spécifique des femmes noires, donc, et de l'intersection entre leur statut de femme qui les met à part des hommes noirs et leur statut de noir qui les met à part des femmes blanches. Bon. Mais elle le pose en tant que juriste. Et donc on voit que l'angle mort qui se glisse immédiatement, c'est la problématique de la place du discours juridique et des ancrages du discours juridique dans son propre discours critique par rapport justement à la, et encore je mets des guillemets quand je dis la, condition de la femme noire aux États-Unis, même par exemple. Mais on boule la femme noire en France, enfin, comme on veut. Mais le point étant que dans son propre discours à elle, il y a d'autres discours de pouvoir qui sont intriqués et qui provoquent l'existence d'angles morts, en fait. Oui. Et que aucune théorie ne peut se départir réellement de sa localisation dans des systèmes de pouvoir. Et là, pour moi, c'est là que j'en viens quand même à quelque chose d'important. Je pense qu'on peut rendre à Robert Kurz, qui est un auteur mais qui n'est pas facile à lire, mais Robert Kurz, lui, il propose, hein, parce que tu te posais une question, il y a une proposition, il dit, moi, ma proposition, je sais qu'elle ne sera jamais satisfaisante, elle sera jamais, il n'y aura jamais de fin à la critique, il n'y aura jamais de... voilà. Mais, une proposition qu'on peut faire, c'est entretenir un rapport strictement négatif à l'existant. Voilà. C'est-à-dire, on refuse d'avoir un rapport positif à l'État, au droit, à la prison, aux hôpitaux, aux écoles, toutes, là j'ai cité des lieux de pouvoir, voilà, refuser d'avoir un rapport, refuser de se dire je vais étudier le problème de la déscolarisation ou de l'illettrisme ou de ça dans les termes qui sont posés à l'intérieur d'une institution, de l'institution scolaire par exemple, refuser d'étudier la délinquance dans le cadre posé par l'institution juridique, par l'institution carcérale, par l'institution policière. Et ça peut paraître trivial, en fait, quand je dis ça. Mais en réalité, ça l'est beaucoup moins que ce que ça en a l'air. Parce que, si je prends l'exemple d'un champ que je connais assez bien, c'est-à-dire le champ des études de la contestation sociale ou des mouvements sociaux, que ce soit en histoire, en politologie, en sociologie, c'est des champs qui sont avec des discours qui sont éminemment intriqués avec ceux de la justice, avec ceux de la police, avec ceux de la psychiatrie, etc., etc., en fait. Et de fait, ces savoirs qui se veulent critiques reproduisent en réalité tout un tas de discours qui eux-mêmes reposent sur tout un tas de techniques qui eux-mêmes produisent des rapports de pouvoir, en fait. Et donc c'est comme ça que même un discours critique peut se retrouver, parce que son épistémologie est prise à l'intérieur de celle de d'autres champs de pouvoir et de d'autres champs discursifs, peuvent se retrouver à reproduire des situations de domination dans des lieux qui prétendent critiquer.
Merci Samuel.
De rien.
Moi, ce que j'ai peur, c'est que la révolution chinoise, la révolution maoïste, elle traquait aussi ça.
Oui, alors, on n'en est peut-être pas là. Je ne propose pas la révolution culturelle, voilà. Ni le grand bond en avant. Quentin, tu voulais...
Non, mais je peux peut-être rebondir là-dessus, c'est qu'effectivement...
Alors, dit comme tu as 4 minutes.
Non, mais ça ira assez vite, je pense. C'est qu'effectivement, dit comme ça, on dirait presque que c'est la manière dont au moins une certaine partie de la sociologie a la prétention de travailler, et qu'en réalité, très régulièrement, quand on la lit, elle va effectivement produire une critique d'une partie des catégories et des registres qu'elle étudie. Et on va sans cesse avoir certains angles morts, souvent en plus, pour des raisons, soit pour des raisons d'angles morts que le chercheur ou la chercheuse a, mais aussi parfois parce qu'il y a des exigences dans la manière de travailler en tant que scientifique, le fait qu'on est censé vouloir être crédible aussi auprès de certaines personnes. Et par exemple, moi, je vais donner un exemple rapide et concret, c'est que si on veut travailler sur une critique sociologique de savoirs médicaux, si on, eh ben en fait, on va quand même prendre à chaque fois les catégories médicales, pathologiques, etc. Et on va peut-être en remettre certaines en cause, mais pour des raisons très spécifiques. Mais on va pas refaire souvent une critique, par exemple, du pathologique, etc. D'une part, voilà, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais aussi des fois parce qu'on est tellement pris dedans que ça nous paraît être quelque chose quand même qui va de soi et que c'est quand même une vraie science. Alors voilà. Et ça produit effectivement des angles morts. Après, je pense aussi qu'il y a une... Ça m'amène juste sur, oui, peut-être la dernière chose que j'aurais pu me dire là-dessus, c'est que ça, on en revient au fait que effectivement c'est de la recherche qui est produite par des chercheurs et des chercheuses, et qu'au-delà même du contenu du pouvoir se pose le statut même, voilà, de chercheur et de scientifique, et du fait que est-ce qu'il peut y avoir en fait un savoir qui se retrouve de toute façon dominant au sein d'un champ universitaire sans que ça ait produit les effets qui était annoncé, bah, je pense pas, ne serait-ce que parce qu'à partir du moment où il y a justement... En fait, pour qu'un savoir soit considéré comme tel, il a fallu qu'il y ait effectivement toute une logique de validation par les pairs, mais les pairs qui sont eux aussi des universitaires, etc. Et donc ça passe forcément par cette appropriation de ces savoirs. Donc voilà, mais...
Bon. Messieurs, ce fut un plaisir.
Il y a une dame.
Oui, non, mais c'est moi qui prends la parole. Donc...
Madame, le plaisir est partagé.
Merci. Samuel, merci.
Ben, merci à vous, merci à Quentin, merci à Emmanuel, et puis merci à François et Mariama.
Bon, alors, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et n'oubliez pas que vous étiez sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde dans l'émission Pas de quartier du groupe Louise Michel. Merci beaucoup à Jean-Mi pour la technique.
Sur vos roues, je vis la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge, l'urie d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement, j'ignorais le teint, cela peut arriver au prophète, monsieur le président, madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je jouais le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que j'en aurais cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, au vent d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière, que sont mes amis devenus. Que j'avais de si près tenu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir. M'est avenu, pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente. Et droite au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Amis ont emporté et ils vantaient devant ma porte les emporta l'espérance de lendemain.
Radio Libertaire 88.8.